Vous écoutez
RMC. RMC, le ring des GG.
S'il vous plaît.
Et prises de position lors du tour de Rome, avec notamment une menace de boycott, vont avoir une suite à Roland-Garros à l'occasion du Media Day.
Nous refusons de reprendre le travail. L'heure de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable.
Quand je vois les chiffres et les montants que les joueurs reçoivent, il me semble que c'est nous qui faisons le spectacle, que sans nous, il n'y aurait pas de tournoi et que ce ne serait pas le même divertissement. Je pense vraiment que nous méritons de toucher un pourcentage plus élevé.
Ouais, messieurs, dames, le spectacle n'aura pas lieu.
Tout est pris au sérieux, je crois que globalement on n'a pas l'habitude de prendre les choses et ce qui vient des joueurs des joueuses par-dessus la jambe. Donc, je pense qu'on ouvre la discussion.
Solidarité avec la CGT.
It's more about respect, you know.
Il s'agit là de respect parce que nous donnons beaucoup plus que nous recevons. Il ne s'agit pas seulement des meilleurs joueurs, mais bien pour tous les joueurs. Et ce n'est pas normal qu'après un an nous n'ayons pas trouvé de solution.
De révolte, je sais pas si sur cette aire de musique à Roland Garros. Et ouais, bah c'est comme ça. J'aime bien parce que je remarque à chaque fois que Marion a toutes les rêves sur les inconnus. Dès qu'on met les inconnus.
Ah non, mais les inconnus, ça me donne le sourire direct. Alors, je vais pas passer à télémagouille d'ici la fin de l'émission, je vais passer un bon Roland, c'est certain.
On va voir ce qu'on peut faire. Alors que se passe-t-il à Roland? Des stars du circuit réclament une plus grande part des revenus générés par les tournois du Grand Chelem. Ils l'ont fait savoir hier en écourtant pour certains leurs interviews aux médias. Les joueurs veulent augmenter leur dotation aujourd'hui fixée à 61,7 millions d'euros, soit environ 15% du total que rapporte Roland Garros à la Fédé. Les GG, je vous pose la question ce matin. Est-ce que vous soutenez la révolte des joueurs à Roland Garros? Tiens, oui ou non, rapidement, dites-moi oui ou non, Alizé.
Oui et non.
Oui et non, Marion Bartoli.
Pareil.
Simon Dutin.
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Et sur le compte XDGG, vous dites oui à 25% seulement.
Et de oui et non, il y a combien
pour, 32-16.
Vous savez quoi, ça
ne
m'étonne pas.
Oui, ça ne m'étonne pas, effectivement. Anthony Reich est à Roland-Garros avec les joueurs et joueuses pas contents pour RMC. Salut Anto.
Salut
Georges.
Salut
Anto.
Bon, il y a eu des discussions jusqu'à hier avec l'organisation. Je crois, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin, les dernières infos sur le mouvement de protestation des joueurs du circuit?
Ben écoute, que cette fronde annoncée lors de ce début de tournoi et de ce fameux Media Day, le traditionnel moment avec les médias avant le début de tournoi, bah ça a été très calme hier. Pas de chaos, pas de boycott des conférences de presse, juste un temps réduit à 15 minutes accordé par les stars du circuit notamment. Une journée en somme classique. La presse internationale attendait beaucoup Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, qui a été la première à brandir la menace d'un boycott. Eh bien, elle s'est présentée devant les micros quand même avec un sourire plutôt gêné, elle a même effectué un petit rétro-pédalage.
The world, number one of...
En tant que numéro 1 mondial, je me devais de monter au créneau pour me battre pour les joueurs et joueuses mal classés ou les joueurs qui reviennent après des blessures ou la génération montante. Notre cause me semble assez claire et assez juste, voilà de quoi il s'agit. We all about...
Au fur et à mesure de la journée d'hier, on a entendu les mêmes éléments de langage, de soutien, mais sur les actions à mener, c'était plutôt en ordre dispersé. De nombreux joueurs et joueuses français ne prenant pas part au mouvement de contestation. Corentin Moutet, par exemple, rappelant que c'est un sport individuel. Et puis, un autre passage très attendu, c'était celui de Novak Djokovic, hier en conférence de presse, qui a beaucoup agi pour le statut des joueurs au cours de sa carrière. Il a bien expliqué qu'il ne prenait pas part non plus à ce mouvement, qu'il n'était pas consulté. Le Serbe regrettait une nouvelle fois la division de son sport et le fait qu'on oublie ceux qui peinent à vivre de leur discipline, tout en prenant exemple sur un autre sport, le golf.
C'est un sport professionnel individuel qui est passé par des temps difficiles en termes de gouvernance et parfois les joueurs ne peuvent faire qu'un circuit puis s'ils vont à l'autre, ils ont du mal. Voyons ce qu'il se passe. L'idée, c'est d'espérer parler d'une même voix et que notre sport ait un meilleur avenir.
Alors tu le disais Georges, une réunion était prévue en fin de journée hier à Roland-Garros à huis clos entre les membres du top 10, leurs agents et les représentants de Grand Chelem. Pour l'instant rien n'a filtré, on en saura certainement plus aujourd'hui avec les dernières conférences de presse. Ce qui est sûr, c'est que la direction du tournoi, Amélie Mauresmo en tête, peut aborder ce Roland-Garros 2026 plutôt tranquillement.
Merci Anto, tu restes avec nous. Oui et non Alizé, tu as dit soutenir la révolte des joueurs.
Oui.
Pourquoi un avis partagé?
C'est un sujet assez touchy quand même, hein, mais je pense qu'on a, on a tous autour de cette table, pas tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas des informations que moi j'ai un petit peu et de ma vision des choses, la cause est plutôt noble. Des joueurs, ils se battent pour leur organisation, ils se battent pour mieux vivre de leur sport. Le fond du problème, il est entendable. En revanche, la forme qui a été utilisée, moi, c'est un peu ça que je condamne. Ça a été fait avec pas mal d'agressivité, notamment lors du tournoi de Rome, avec une Aryna Sabalenka et un Yannick Sinner qui a
offensif quoi.
Qui ont parlé de manque de respect. Je pense que la communication doit être mieux établie entre les joueurs et les grands chelems, entre les joueurs et Roland Garros. Et il y a des choses qui peuvent rester en interne. Et là, c'est vrai que ça fait. Alors, ça donne, attention, ça ne l'est pas, je mets les guillemets, mais ça donne un peu l'impression d'enfants gâtés qui font leurs caprices sans vraiment parler, en fait, à l'organisation.
Ah, bah, c'est un peu ce qu'on a sur les messages des auditeurs, hein, je te le dis, Lisa.
Oui, mais en fait, je veux aussi me mettre du côté, en fait, j'essaie de me mettre du côté des joueurs et du côté de Roland Garros. Roland Garros a quand même fait énormément d'efforts pour les joueurs. Il y a une augmentation pour le vainqueur du tournoi de 300 000 euros. Le premier tour du tournoi pour les joueurs, c'est 84 000 euros. Seul l'US Open fait mieux. Ça veut dire qu'on est quand même en haut, très en haut de la tranche du prize money, et que les efforts sont mis en place pour les joueurs un petit peu moins bien classés. Dans les qualifications, il y a aussi une augmentation du prize money. Donc il y a des efforts constants qui sont mis en place. Le prize money, il augmente d'année en année.
Tu veux dire que ça donne le sentiment que rien n'est fait alors que c'est pas le cas en fait.
En fait, je trouve que les joueurs se basent beaucoup sur ce qui est de moins satisfaisant, sans mettre en lumière tout ce qui a été fait de bien depuis beaucoup d'années. Et en fait, ça fait un petit peu le manque de reconnaissance. Il est un peu dur à entendre, je pense, pour Roland Garros, parce qu'au final, ils mettent tout en œuvre pour faire en sorte que les joueurs se sentent bien. Les structures ont été améliorées, les prize money ont été augmentées. Et c'est vrai qu'en fait, les joueurs, ils comparent des choses un peu incomparables. Ils comparent leur sport, donc Roland Garros, avec qui est quand même financé par une fédération à but non lucratif, avec des sociétés comme la NFL, la NBA, qui sont des sociétés privées. Et en fait, la redistribution du prize money, elle peut pas être la même. Évidemment, c'est 15% dans le tennis et ça pourrait monter jusqu'à 20%, mais on peut pas comparer avec des 40-50% sur des sports co aux États-Unis.
C'est trop, en fait. Ce qui est demandé, le niveau de comparaison est pas le bon, en fait. En tout cas.
Mais c'est pas 50% qui est demandé, c'est 25%.
Oui, bien sûr.
Attends, je finis juste un truc. Je trouve que les meilleurs joueurs auraient pu se positionner à l'image d'une Coco Gauff, et on en parlait hier avec Marion, auraient pu se positionner pour défendre un peu plus les joueurs moins bien classés. C'est-à-dire pour vraiment rediriger le débat sur on a besoin de plus d'argent pour ces joueurs entre 100 et 300
qui ne peuvent pas,
qui ne peuvent pas financer leur saison, qui ont besoin de plus d'argent. On fait partie des 300 meilleurs joueurs du monde dans notre sport. Et en fait, le débat, il a été redirigé vers quelque chose d'un petit peu égocentré, vers le top 10, alors que c'est pas eux qui ont besoin.
Et qui est dur à entendre pour le public.
Et
c'est pour
ça
qu'on a que 25% de nos éditeurs qui soutiennent pour l'instant cette révolte des joueurs. Marion, t'es un peu sur la même thématique?
Oui, totalement, mais il y a plusieurs éléments. Pour moi, effectivement, quand on regarde l'historique de la WTA, par exemple, parce que là, on prend Aryna Sabalenka.
Le circuit féminin, pardon.
C'est parce que Billie Jean King s'est battue pendant des années que même le sport et le tennis féminin existent et qu'on peut vivre aujourd'hui et que ces joueuses-là vivent de leur sport parce qu'il y a eu effectivement à un moment donné des pionnières qui n'ont pas hésité à faire beaucoup de bruit et qui n'ont pas hésité à revendiquer certains droits. Alors, de là à dire que Aryna a raison ou pas, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que comme l'a dit Alizée, effectivement, c'est pour moi le timing était un petit peu difficile à comprendre, même si d'un certain côté je les comprends, mais c'était
parce
vraiment
que c'était juste avant un grand chelem.
Exactement.
En fait, c'est ça.
À la limite, en fin d'année, quand toute la saison est finie, on fait un bilan avant que les quatre grands chelems commencent, où on sait très bien que les quatre grands chelems généralement s'alignent sur à peu près les mêmes choses, avant que l'Open d'Australie commande, qu'il y ait effectivement des réunions en interne entre les joueurs, les joueuses, les témoins du grand chelem, qui sont des organisations différentes. Oui, là avant Roland Garros, ça m'a un petit peu surprise. Néanmoins, et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'était mon axe hier dans Super Moscato Show et je reste là-dessus. Ce qu'a évoqué pour moi Coco Gauff, c'est ça le fond du problème. Et je le sais parce qu'aujourd'hui, j'entraîne deux joueuses qui sont sont quasiment le même classement. Elles sont 170e mondial, 175e mondial. Et aujourd'hui, il y a des semaines où elles doivent choisir entre prendre un entraîneur physique ou prendre un entraîneur tennis. Parce qu'elles ne peuvent pas se permettre, sur toutes les semaines de l'année, de payer un entraîneur physique et un entraîneur tennis, et encore moins un kiné en plus, parce que c'est beaucoup trop d'argent pour elles, et qu'à la fin de l'année, en fait, elles ne boucleraient pas leur budget. Et ça, moi, effectivement, dans un sport qui génère beaucoup d'argent, je me dis que quand même, on peut peut-être réfléchir à une évolution dans la manière dont l'argent est réparti pour que ces joueuses-là, bah, finalement, aient la même chance au final que des joueuses qui ont une capacité de payer un staff bien plus élargi et qui donc ont un entraînement au quotidien qui forcément va être meilleur parce qu'elles ont, la possibilité de se le payer. Et moi, ça ne me dérange en aucun cas qu'elles aient la possibilité de se le payer. Et au contraire, tant mieux qu'elles aient la possibilité d'avoir 5, 6, 7 personnes pour les aider à être encore meilleures et plus performantes sur le terrain. Et je le mets au masculin comme au féminin. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est aujourd'hui 170e meilleur de sa discipline dans le monde entier, qu'elle soit obligée de se dire, bah là, je suis désolée, mais je peux pas prendre deux personnes, c'est pas possible. C'est compliqué.
Et c'est vrai que ça, on l'a pas entendu. Pas comme ça, en tout cas.
Et c'est ça que j'aimerais développer. Et c'est vraiment ça que j'aimerais développer parce que pour moi, là, il y a un réel sujet. Alors, je sais que Roland Garros fait énormément. Je pense qu'elle disait, alors, on a quelques années d'écart, mais on n'était pas dans les mêmes price money du tout quand on a commencé à Roland Garros. Pour vous donner un contexte.
Attends, vous êtes devenu Lamborghini, hein.
Non, mais.
Ça, je trouvais ça hallucinant.
15 000 euros à mon premier Roland.
Eh ben, tu vois, t'as eu le double de moi. J'avais 7 000 euros.
Allez.
7 000 euros. Faut quand même se rendre compte que le.
Premier Roland, toi.
Si j'avais 16 ans, donc c'était en 2000.
Ah ouais, moi 2005, et non, déjà 2001, ça a augmenté du double, du simple double.
Tu vois, donc en fait, on voit la progression. Donc en 2001, on était à 7 000 euros, aujourd'hui on a 84 000. Donc il y a quand même une énorme progression, mais c'est vrai qu'on aimerait que cette répartition descende vers les joueurs des qualifications et descende éventuellement même au premier tour du tableau final.
Ça n'a pas été assez mis en lumière, moi je trouve, de la part des joueurs. Et c'est ça le problème de forme dont je parle.
Bah, on n'a pas eu la punchline forte, effectivement. Le petit tennisman se meurt et a besoin des grands chelems pour survivre. Ouais. Ça aurait été
Coco en a parlé. Hein.
Oui, bien sûr, mais ça a manqué dans le discours global, Simon.
Bah, je crois que même Sabalenka, il est allé de son petit oui, mais moi je me bats aussi pour le tennis d'en bas et on a un petit peu de mal à y croire. Je vous prie de m'excuser, mais c'est pas voir le mal partout. Tu as rappelé quand même qu'il y a une croissance exponentielle quand même de ce qui a été distribué. Donc il y a déjà des efforts qui ont été faits par les grands clubs. Donc moi je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. Je trouve que ça manque un petit peu d'unité parce qu'un Djokovic dont on n'a pas à douter de la volonté de...
Il a fait beaucoup pour les petits joueurs.
Beaucoup,
énormément.
Il y va avec l'extincteur à la main quand même. Il y va mais sans y aller en disant moi je vais continuer à aider le tennis comme je l'ai toujours fait, mais il n'a pas envie d'être associé quand même à la diffusion de ce message qui, on s'en rend bien compte ce matin, est mal perçu quoi qu'il arrive. Qu'il soit vraiment tenter de sincérité, et il n'est pas interdit de penser que c'est pas la même chose pour tous les joueurs ou toutes les joueuses. L'argument principal, c'est, en gros, sans nous, il n'y a pas de spectacle. Mais sans les tournois.
Ce qu'on entend dans tous les sports quand il y a eu des problématiques. Alors, on parlait de la NBA, de la NFL tout à l'heure.
C'est un vrai argument, ça.
Ouais, et quand on entend sur le vélo aussi, on va en parler.
S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de spectacle. Mais s'il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de plateforme ou de théâtre ou de scène, appelle ça comme tu veux, pour qu'il y ait un spectacle. Je veux dire, les grands chelems.
Et les grands chelems permettent d'avoir de meilleurs sponsors aussi pour les joueurs, par exemple.
Les grands chelems redistribuent, alors certes, s'enrichissent, mais les grands chelems, ils redistribuent, je parle sous votre contrôle, mesdames, un peu à la fédération, qui elle-même, justement, donne aux petits clubs pour former les jeunes joueurs qui peuvent améliorer les infrastructures. Donc, je suis pas persuadé qu'en plus, les gens, est-ce qu'il va y avoir moins de monde à Roland-Garros cette année parce que Alcaraz est pas là? Est-ce que les gens, ils viennent parce que, alors certes, t'es attiré par,
si tous les membres du top 20 faisaient le boycott, ça mettrait quand même un sacré coup au tournoi. Et à un moment donné, il y a eu rumeurs assez sérieuses de boycott. Et
parce que le mot a été balancé à Rome, en fait, hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été utilisé hier.
En fait, tu viens pour, demain, autour du cours numéro 14, ça va être la folie, alors que, il n'y aura pas de méga star du tennis. Tu viens parce que c'est Roland Garros. Tu viens pas parce que c'est Sabalenka.
Tu viens pour les deux.
Mais parce que tu viens pour Roland Garros. Voilà, tu vas à Roland, tu vas pas voir Sabalenka, tu vas à Roland.
Moi, j'allais voir Tour de France pour Jérôme Pinot, hein, pas que pour le Tour de France.
C'est gratuit.
Soutenez-vous la révolte des joueurs. Alors, toi, t'as dit oui à Roland Garros, Jérôme.
Oui, parce que je fais un parallèle avec mon sport, évidemment, et je trouve que c'est un vrai sujet. Le fond est très bon. Je pense que participer et faire participer et redéployer les moyens qui sont engrangés, l'argent qui est gagné par les organisateurs doit retomber. Tu le dis, Simon, mais la scène sans acteurs, c'est pas bon non plus. Il faut que tout le monde prenne sa part et que je trouve que si les revenus vont en augmentant, évidemment qu'il faut indexer l'augmentation sur les acteurs principaux. Que sont les sportifs.
Oh, mais tu vois, regarde.
Et dans mon sport à moi, et je vous entendais parler des sommes, si on se lance des sommes, moi j'ai fait mon premier Tour de France en 2000, j'avais 1800 balles par mois et le vainqueur d'étape, il gagnait 1000 balles. T'imagines? L'un des plus grands événements au monde. Donc, la hiérarchie des sommes, elle est ce qu'elle est, et on va pas comparer les sports, c'est pas le moment. En revanche, que les revenus générés par l'organisateur retombent partiellement et soit indexé.
Mais ça, c'est logique.
Aux joueurs.
Bien évidemment. Mais tu sais, regarde, il y a cette semaine supplémentaire qui a été créée par Amélie, puisqu'auparavant, la semaine des qualifications était peut-être un peu plus anonyme.
Voilà, ce qu'on appelle l'opening week, effectivement, voilà. La semaine écoulée.
C'est vraiment une révolution.
Aujourd'hui, il y avait 20 000 personnes tous les jours pour la semaine des qualifications, pour l'opening week de Roland-Garros, avec des matchs sur le cours Suzanne Lenglen, avec des interviews réalisées après les matchs pour les vainqueurs sur le cours Suzanne Lenglen. Il y a d'ailleurs David Goffin, je vous invite, si vous voulez vivre un moment d'émotion, qui, lorsqu'il a gagné son premier tour, était en pleurs sur le cours Suzanne Lenglen en disant « j'ai quasiment la sensation d'avoir gagné Roland alors que c'est le premier tour des qualifs ». Donc les gens viennent quand même pour le nom, pour l'événement, pour Roland-Garros. Et alors bien sûr qu'on a besoin des acteurs, et bien sûr que surtout si un Français ou une Française va loin, il y a encore un engouement supplémentaire et que les gens sont encore plus, vont encore plus suivre. Mais la force et la puissance du tournoi, elle est énorme. Et tu pourrais dire pareil pour Wimbledon, tu pourrais dire pareil pour l'US Open, tu pourrais dire pareil pour l'Open d'Australie. Avec des identités de grands chelems qui sont très marquées, bien sûr. Chacune a une identité complètement différente et chacune joue sur un élément fort. Mais la partie de, pour nous, en tout cas, français, Roland-Garros, c'est
nous, le
moment. Voilà, exactement.
Moi,
c'est ancré dans l'histoire du pays.
Et j'ai été beaucoup moqué. Et tant mieux. Ça a au moins eu le don d'éveiller certains. Quand j'ai parlé de rémunération, et non pas de faire payer les spectateurs, de rétribuer les équipes quand on fait des gains, quand on fait rentrer de l'oseille. Ce que fait, par exemple, les grands organisateurs quand ils créent de l'hospitalité, quand ils prennent des chèques incroyables pour faire venir des marques, pour mettre en place des repas autour des stades, des night sessions comme il y a à Roland, des arrivées du tour où tu ne pénètres plus les 5 derniers kilomètres parce qu'il y a des VIP.
Ça existe déjà, oui.
Il faut rétribuer les équipes, les acteurs. Il faut le faire. C'est très important. Alors, c'est déjà le cas dans le tennis, mais si eux augmentent leurs gains, je trouve logique qu'il y ait une indexation, ce qui n'est pas le cas du tout. C'est pour ça que j'ai répondu que oui, ça, je suis avec les joueurs parce que ça devait être le cas dans tous les sports. L'acteur principal, ou si on a deux, parce qu'il peut y avoir plusieurs acteurs principaux,
oui, il faut le valoriser,
ce sont l'organisateur et les acteurs. Et il n'est pas logique d'entendre que l'organisateur s'enrichissent sans indexer les revenus des acteurs.
Et c'est effectivement de toute façon un sujet sur lequel on reviendra, et aussi dans le vélo effectivement, parce que c'est une petite musique qui monte.
Il est grand temps dans le vélo parce que beaucoup d'équipes meurent, il y a des grands organisateurs qui s'enrichissent, ça n'aide pas le sport en lui-même.
Soutenez-vous la révolte des joueurs, vous dites oui à 28% sur le compte
ID. On a gagné 3%.
Hein, 3%.
Je crois que c'est la première fois. Dans l'histoire GGG, ça c'est la première fois qu'il y a 3% qui bouge. C'est une immense victoire. Je dirais même c'est un exploit.
Oui. Comme vous avez dit oui ou non, vous avez gagné
perdu. Dire,
comme elle s'arrange quand même, c'est incroyable. Tiens, je voulais garder 2 minutes pour Anthony Resch à Roland-Garros, qu'on donne quand même les dernières nouvelles d'Arthur Fils, qui va faire son entrée en lice normalement dans 2 jours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son état de santé qui pouvait inquiéter ces derniers jours?
On va en savoir un peu plus dans une demi-heure, parce que Arthur Fils va passer un gros test. Il va s'entraîner à partir de 11h sur le cours central avec Yeryl Ehechka. Donc ça va être sa première séance avec un autre joueur membre du top 20, top 30. Donc c'est là qu'on va voir, c'est certainement un gros test. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné hier pendant une heure sur l'annexe de Jean Boin, le magnifique complexe en face de Roland-Garros, sur le cours le plus caché du complexe. C'était un peu fort à la mot. On avait le droit qu'à 5 journalistes par rotation pour aller le voir. J'ai failli me percher sur une terrasse avec mes jumelles pour essayer de le voir s'entraîner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné normalement hier. Il n'y avait pas énormément d'intensité, mais il tapait la balle normalement. Donc ça, c'est premier signe rassurant.
Donc Anthony, tu es en capacité de dire si un joueur de tennis professionnel tape la balle normalement.
Bien sûr, on connaît.
J'ai l'impression qu'il y a que Arthur Fils qui participe à Roland-Garros. Il n'y a pas d'autres joueurs.
C'est quand même la tête d'affiche.
Ça prend des proportions.
Mais parce qu'on est inquiet.
Et top 5 à l'arrêt, c'est quand même.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas être inquiet pour Arthur Fils.
Là, il va jouer des points avec l'Ehechka. Enfin, à un moment donné, s'il fait des points avec un top 20, c'est que ça tient. Et qu'il a fait le job, il a été précautionneux. Il s'est sûrement entraîné avant, mais on le sait pas. Enfin, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on tombe dans des trucs là.
J'ai posé cet argument là cette semaine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi toutes les deux. Il est allé voir son pote. Si t'es pas bien, t'es limite forfait, tu vas pas t'afficher.
Non, mais moi, je l'ai croisé plein de fois pendant la semaine des qualifs, il va très très bien. Voilà. Hein. Il a le sourire jusqu'aux oreilles, tout va très bien.
Moi, perso, cette nuit, j'ai bien dormi.
Oui,
ça m'a pas inquiété.
Marion. Faut pas s'inquiéter?
Ah, mais pas du tout.
Ah, voilà.
Mais en tout cas, c'est son état physique. Après, rentrer sur le terrain, avoir la pression, être nerveux, ah oui, ça oui, c'est Roland Garros. Tout le monde en tant que Français là.
Mario Marcoli, les yeux dans les yeux.
Mais les yeux, on les archi-yeux.
Arthur Fils est à 100% pour les yeux Roland Garros.
Mais archi. À 100%.
Elle s'avance, hein.
Les archisieux, mec. Les yeux étaient les archisieux. Ah, mais t'avais pas compris que Mario Bartoli était un X-Men. Ça explique plein de choses, hein.
Mais ça s'explique tout, j'ai envie de te dire.
Bien sûr. Ça explique qu'elle arrive à être à plein d'endroits en même temps.
Ça explique ma pause en verte.
Mais ça se transforme un peu en obsession.
Je peux t'en prendre un peu, moi.
Ah oui, l'attitude, là, des médias envers Arthur. Alors, oui, certes, il est top 5 et c'est le grand espoir de Roland Garros.
Mais rappelle-toi de Andy Murray à Wimbledon, hein. Chaque année.
Il se fait ça lui-même, ah non,
mais,
il fait, il se
mais non, mais rappelez-vous d'Andy Murray à Wimbledon, c'est pareil.
Alizé, je crois que t'es pas prête, hein, avant le Tour de France, on va vouloir savoir quand dort un peu le Sexas, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il a fait de
sa journée. Il va bien, il est en Sierra Nevada, il va peut-être.
Allez, Roland Garros, je m'étouffe. Débute demain et ce sera à suivre sur RMC, évidemment. On a une radio digitale 100% terre battue que vous pourrez suivre tous les matchs dès les premières balles, dès 11h, vous ne manquerez rien. Et puis abonnez-vous aussi au podcast Tennis Court numéro 1 tous les jours pendant Roland avec Anthony et avec les déambulations mythiques qu'on adore d'Eric Salio en Bermuda. dans les travées de Roland Garros.